11h midi sur Europe 1.
Samedi en France.
William Lémergie.
Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à Samedi en France. Désormais, je vous le rappelle, à 11h sur Europe 1 pendant l'été. Alors, comme son nom l'indique, Samedi en France, cette émission est diffusée en fin de semaine. Et on vous propose de visiter une France que vous ne connaissez peut-être pas à travers, je vous le rappelle également, 4 sites originaux situés dans 4 régions différentes. Bon, alors, démonstration avec ce sommaire. On vous emmènera aujourd'hui le long du canal du Midi sur un lac artificiel où vous allez pouvoir visiter, pas très loin, la galerie des robinets. Ça s'appelle comme ça, vous mettez des guillemets. Le nom ne vous dit rien, mais sachez que vous serez à 70 mètres de profondeur pour y voir quelque chose de rare. Après, c'est la direction la Corse, à la rencontre de deux frères, spécialistes des plantes médicinales. Aujourd'hui, ils sont producteurs d'huiles essentielles en Corse. Et même, elles sont devenues, ces huiles-là, les meilleures du pays grâce à ces frères-là. Alors, comment ils ont fait? Pourquoi là, en Corse, chez eux? Patience. Ensuite, direction le ciel. Ah, c'est pas mal, ça. On prendra l'air au sens propre. On vous proposera de vous balader en ULM au-dessus d'un lieu unique au monde, le Mont Saint-Michel. Et vous ne ferez pas ça tout seul, vous ferez ça avec qui? Eh bien, avec Gavin Clémenté Ruiz, figurez-vous qu'il a fait ça. Oui, oui. Eh bien, oui, mon complice du guide du routard connaît la France mieux que sa poche. Et du coup, hop, le voilà là-bas en l'air. Et vous verrez pourquoi il a été désigné d'office. Alors, on commence tout de suite avec un site. Alors, celui-là est dans la catégorie insolite. Ça se déroule dans l'Aube, dans et autour d'un château du 18e qui a une histoire assez romanesque. Alors, asseyez-vous.
Je vous écoute.
Il était une fois une riche famille qui a demandé à un architecte de Louis XV de lui construire un château. Alors l'architecte était très en cour auprès du roi, et puisqu'il avait construit déjà le château de Lunéville, l'hôtel de Soubise à Paris, vous savez, qui abrite aujourd'hui les archives nationales. Mais c'est donc pas un débutant. Alors son truc à l'époque, c'est assez culotté, vous allez voir, c'est de construire un château classique, mais avec de nombreuses références à la mythologie. Pourquoi il a fait ça, on va vous le dire. Le propriétaire étant aisé, il fait venir des ardoises de Paris, et on ne compte pas, et il fait venir ça par bateau, des pierres, il fait venir ça de la ville de Tonnerre, à dos de mulet, allons-y, hop, le chèque. Bref, le chantier, tout ça pour dire, c'était titanesque. Et le propriétaire, il meurt avant la fin des travaux. Et puis, à la Révolution, la famille, comme beaucoup d'autres nobles français, direction l'Angleterre, ils vont se réfugier là-bas. Oui. Au Second Empire, changement de propriétaire, nous sommes cette fois au 19e, le nouveau s'appelle Charles-Émile de Maupas. Il est préfet de Paris. Il est donc aux ordres de Napoléon III. D'ailleurs, il va l'aider, Napoléon III, à faire de lui le premier président de la République. Hein. On est en 1850 et quelques. Mais ça ne plaît pas à quelques nostalgiques de l'ancien régime. Et donc, le nouveau président, souvenez-vous de l'histoire, pour déjouer les éventuels complots, utilise les talents d'un agent secret, numéro 31. Mais à la ville, on l'appelle Vidocq. Très important.
Ah, voilà.
Ben oui, c'était pour en arriver là. Voilà, madame, monsieur, bienvenue au château de Vaux, que l'on vous propose de visiter de manière originale. Alors, comment et pourquoi, monsieur Clémenté Ruiz?
Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, comment? Ben, c'est ça qu'on va découvrir. Ce château, il a une taille assez impressionnante. C'est un investissement permanent. Et donc,
oui,
il faut faire preuve d'imagination pour l'entretenir.
Et, oui.
Et ces visites, ça fait un petit peu partie de la restauration des lieux. On est au château de Vaux, en Champagne, à 30 km au sud de Troyes, précisément.
D'accord. Alors, ce château a connu, paraît-il, c'est ce qu'on m'a raconté, des hauts et des bas.
Ouais.
Plutôt des bas, d'ailleurs,
ouais,
non?
Pas mal, ouais. Bah ouais, parce qu'après le passage du préfet Maupas, qui était le propriétaire, le château a été à l'abandon totalement. Puis ensuite, il a vécu toutes sortes de péripéties. On l'avait même quasiment oublié. Sauf qu'en 1980, il a été classé monument historique.
Il a été oublié pendant un bon moment. Hein.
Ouais, quand même pendant un sacré moment. Et il a été racheté par un jeune homme de 22 ans, Édouard Guyot, qui en est aujourd'hui toujours le propriétaire.
Alors, c'est là qu'on s'intéresse à ce château, parce que le jeune châtelain en question doit entretenir, vous l'avez dit, ce magnifique bâtiment. Et il a la bonne idée. Et il va vous dire laquelle. Nous sommes en ligne avec Édouard Guyot. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Alors, j'ai une photo de votre château sous les yeux. Ça montre d'abord une perspective impressionnante quand on arrive au château. Hein, c'est à la fois classique et monumental, me semble-t-il, non? Par rapport à ses voisins ou d'autres châteaux.
Exactement, en fait, Vaux a la particularité assez inouïe d'être au milieu d'une forêt de plus de 2000 hectares, à côté de Chaourse, au sud de Troyes. Et en fait, du coup, il y a des très, très grandes allées qui dessinent la perspective et qui font une véritable mise en scène de cette architecture au milieu de la végétation. Ouais.
Alors, je parlais maintenant, venons-en à l'essentiel. Je parlais d'une bonne idée que vous proposez donc aux visiteurs. Alors, c'est en lien avec le célèbre Vidocq et ça permet de visiter le château. Je vous laisse le soin d'expliquer.
Alors, effectivement, la première année du projet, comme c'était un château oublié et en très mauvais état, on a eu l'idée de créer une sorte de Cluedo géant,
oui.
Mais sous forme de visite immersive où tous les jours de l'été, les gens peuvent en fait découvrir un château qui est en pleine renaissance, mais en parallèle de cette visite, contrastée par les travaux, eh bien, on peut visiter 25 pièces ouvertes au public qui ont été redécorées et meublées sur le thème de Vidocq, où il y a une enquête tous les ans qui change.
Ah oui, il y a un meurtre, alors c'est une enquête policière quoi avec Vidocq.
C'est une enquête policière, c'est exactement ce que faisait Vidocq au XIXe siècle. Il a travaillé pour plein de régimes différents et son dernier patron, c'était Maupas, le propriétaire du château.
Alors, il faut trouver le coupable. Et ça, c'est le bon prétexte pour visiter, mais on visite quand même. On n'est pas là que pour découvrir le fin mot de l'énigme.
On a deux types de visiteurs. Il y a vraiment les gens qui viennent découvrir ce petit chef-d'œuvre d'architecture qui est vraiment de l'époque Régence. Et on a surtout les autres, à 80%, qui sont des familles, des touristes étrangers ou des gens de passage qui viennent pour jouer, pour passer un moment de qualité dans un cadre historique. Et d'une pièce à l'autre, on doit trouver des indices et on essaie de faire rêver les gens.
Bien sûr. Pourquoi vous avez acheté ce château à l'époque? Quelle idée onéreuse, si j'ose dire.
Écoutez, j'ai eu un coup de foudre quand j'ai découvert le département de l'Aube dans lequel on se trouve. Et quand j'ai visité le château, j'ai découvert que tout l'environnement en fait, était fabuleux. Le vignoble de Champagne, tout cet environnement rural qu'on a. Et d'accord. La ville de Troyes qui est somptueuse. Et derrière, il y a eu ce projet, si vous voulez, de redonner vie et de sauver un chef-d'œuvre en péril. Et ça, c'est ce qui m'a parlé le plus.
D'accord. Et c'est long, il faut le préciser. Alors maintenant, on revient à la visite et à l'énigme. Ça dure combien de temps pour trouver le coupable?
Il faut compter 1h30 pour le jeu et 2 heures de visite en tout quand on est sur place. On a le scénario, si vous voulez, permanent qui a lieu tous les jours l'été de 10h à 19h, qui est sans réservation. Mais voilà, il y a un petit peu moins de magie puisqu'on est 2 jours.
Oui.
Et tous les vendredis soirs, on a 25 comédiens en costume, dont des acteurs professionnels, qui incarnent le rôle de Vidocq et des domestiques douteux du château qui jouent des rôles. Et tout est éclairé à la bougie.
C'est autre chose là. Bon, et quand on trouve le coupable, on a droit à un verre de champagne ou un brevet de détective
Alors la journée, il y a une bouteille quotidienne de champagne à gagner par jour. Et pour l'enquête nocturne, les enquêtes de Vidocq la nuit, le vendredi soir, eh bien oui, il y a une récompense en fait pour chaque groupe. Alors. Ça peut être un faux diamant, ça peut être un bracelet, mais je vous laisse petit peu de surprise quand même.
D'accord, alors je rappelle simplement, parce que c'est obligatoire, que c'est à boire avec modération. En tout cas, bravo, merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Bon, alors, il faut aller dans ce château.
C'est génial. C'est à 30 km de Troyes pour aller voir celui d'Edouard, en tout cas. C'est à Fouchères, pas loin de la forêt d'Orient. Et tous les vendredis de l'été. Donc, c'est 16 € pour un adulte pour résoudre l'énigme au château de Vaux, sur réservation, bien entendu. Autrement, c'est la visite classique qui est possible de 10h à 19h tous les jours pour 8 €.
Alors, on a vu comment on peut boire, mais ça, on a compris dans la région de Champagne. Pour manger, c'est où?
Eh bien, on va rester sur place au château. Ah. Il y a le pavillon du gardien qui vous accueille pour goûter poulet rôti au chaourt.
Ah, parce que moi, je le vois sur la photo, le pavillon. C'est bien, hein?
C'est pas mal. Il y a aussi les poulardes avec toutes les provenances locales. Vous allez voir, il y a aussi l'omelette qui est pas mauvaise. Il y a les œufs en meurette, etc. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ouvert de juin à septembre. Donc on
met ça sur Europe1.fr de toute façon.
Exactement.
Ok, dans un court instant, suite de Samedi en France, je vous le rappelle, diffusé à 11h sur Europe 1 cet été, avec dans un instant donc la visite d'un site étrange dont, franchement, on ignore souvent l'existence.
Ah ouais.
Ah oui. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Et pourquoi? C'est vraiment sous terre. Direction le canal du Midi, près d'un étang artificiel. Alors lui, il est bien connu des Toulousains. Pour y découvrir, ouvrez les guillemets, la galerie des robinets. Fermez les guillemets. Alors attention, hein, c'est pas le petit robinet de la salle de bain. Robinet, c'est grandiose. Et l'ensemble est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, de quoi s'agit-il? Patient.
11h midi sur Europe 1, Samedi en France. William Lémergie.
Alors voici le deuxième site que l'on vous propose de visiter aujourd'hui. Alors c'est un lieu unique, il est situé sur le tracé du canal du Midi qui relie, vous le savez probablement, la Garonne à la Méditerranée. Alors ce canal, au fond, c'est un chef-d'œuvre d'architecture qui a été construit par un génial, ou on peut dire ça, concepteur, qui s'appelait Pierre-Paul Riquet. On va s'arrêter à Revel, en Haute-Garonne, au lac de Saint-Ferréol. Il s'agit du premier réservoir réalisé en France, fin 17e, pour réguler l'alimentation du canal du Midi, justement. Alors, il a été pendant quoi, 2 siècles, hein, le plus grand barrage français. Et aujourd'hui, je le redis, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une référence, s'il vous plaît. Le site à visiter se trouve tout près de ce lac. Et c'est ce qu'on appelle, vous ouvrez les guillemets, la galerie des robinets. Et là, alors, cette galerie, elle permet de réguler l'arrivée d'eau du canal. Je fais simple. Hein. Alors, je suis d'accord avec vous, ça mérite quand même des explications. Alors d'abord, on va demander à Gavin Clément-Terruz s'il les a trouvées, les explications, dans son guide du routard.
Bien entendu, bah, William, que oui. Je les ai trouvées dans mon routard. En effet, on est dans un cadre enchanteur. Vraiment, c'est très verdoyant, c'est très boisé. On est à 1 heure de route de Toulouse. Sur place, on découvre qu'il y a un musée qui est consacré à cette galerie des robinets, dont on va vous expliquer à quoi elle sert. Et c'est vraiment un pur chef-d'œuvre d'ingénierie. Le créateur, c'est Pierre-Paul Riquet, un sacré bonhomme. Il est né au XVIIe siècle. On dit qu'il rêvait d'obtenir un titre de noblesse grâce à sa création. L'information n'est pas avérée. Mais en fait, il est mort avant la fin des travaux. C'est dommage pour lui, c'est ballot. Il restait que 3 kilomètres.
Alors, ne vous inquiétez pas, sur place, il y a un musée qui explique tout ça. Et puis, il y a surtout, qui nous intéresse aujourd'hui, on vous propose cette visite, c'est la galerie des robinets. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ?
Les robinets, c'est des robinets en bronze.
Très bien, merci beaucoup.
Au revoir. Il date du XVIIe siècle. Mais alors, ce n'est pas des robinets comme vous avez dans votre salle de bain, dans votre cuisine. Non, ils pèsent, 500 kilos chacun.
Ah oui, là, le plombier.
C'est un peu plus dur.
Il a du boulot.
S'il y a une fuite, imaginez.
Oui, une fuite. Le lieu est pâté spectaculaire pour accueillir des pièces de cette taille, non ?
Oui, c'est ça. Spectaculaire, c'est le mot. Vous allez pénétrer dans un tunnel à 70 mètres de profondeur.
On descend à 70 mètres.
Ouais. Et là, pour vous accompagner, vous avez un vrai spectacle son et lumière qui met en scène ces robinets qui sont vraiment très très beaux et qui permettent de réguler le canal.
Bon, j'espère que ça vous intrigue.
Je ne dois
pas être le seul. Hein. Alors, nous sommes en ligne avec Florence Diverès, qui est médiatrice dans ce réservoir, pas dans, mais pour ce réservoir. Bonjour Florence.
Bonjour.
Première question, l'utilisation de ces robinets d'abord, puis après on verra l'histoire avec un grand H. Alors, à quoi servent ces robinets exactement ? Combien y en a-t-il ?
Alors, ces robinets, ils sont au nombre de 3 et ils ont été installés en 1829 et ils ont fonctionné en fait jusqu'en 1994. Donc, d'accord. Ils ne sont plus en activité aujourd'hui, mais ils permettaient de faire passer l'eau du réservoir vers le canal du Midi pour l'alimenter en eau.
D'accord, donc il y avait là des employés, si, selon les besoins, selon la saison, selon qui, on ouvrait ça, hop, le canal était alimenté en eau et on refermait ça. Et cette eau est épuisée dans les temps en question, c'est ça ?
Tout à fait, oui, bon. Oui. En fonction des besoins, on ouvrait 1 ou 2 robinets et on alternait l'ouverture pour limiter l'usure sur les mécanismes.
D'accord. Le concepteur de cet ensemble, il ne les a pas connus, ces robinets en question, parce qu'ils datent du 19e. Hein. Ils ont donc été ajoutés après ?
Oui, alors en fait, le barrage tel qu'il a été construit à l'époque de Pierre-Paul Riquet, il ne correspond plus tout à fait au barrage tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Il a été agrandi quelques années après Pierre-Paul Riquet par Vauban, et puis il a subi des évolutions au cours de son histoire.
Ah bon, il était dans ce coup-là, Vauban encore ?
Vauban, il est partout.
C'est ça.
Non, mais parce que dans l'émission, récemment, on a aussi parlé de Vauban, décidément. Alors, le show dont parlait Gavin, la son et lumière, c'est pendant toute la durée de la visite. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce show ? Qu'est-ce que vous montrez ?
Alors en fait, le show, il est dans la galerie vraiment à proprement parler, donc à l'intérieur du barrage. On rentre au cœur du barrage de Saint-Ferréol. Et dans ce show, vous avez alors une partie un petit peu ludique pour découvrir justement la profondeur de la galerie, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur qu'on est sur un barrage de 149 mètres d'épaisseur. Et la galerie, elle fait la moitié en fait du barrage, on s'arrête au grand mur. Et donc voilà, on a aussi des vidéo mappings pour un petit peu mieux comprendre le fonctionnement de ces robinets et du barrage. Et ça ajoute une expérience supplémentaire au lieu qui est déjà exceptionnelle en lui-même.
Dites-moi Florence, quand on est dedans, donc ça veut dire qu'au-dessus de nos têtes, il y a l'eau du barrage ?
Pas dans la galerie des robinets.
Ah bon ?
Parce qu'en fait, le barrage de Saint-Ferréol, c'est un ensemble de 3 murs et de 2 remblais. Donc il est très très épais et la galerie des robinets, elle, s'arrête au niveau du grand mur. Donc l'eau, en fait, est de l'autre côté du mur,
ah bon.
Là où on s'arrête. Okay. Voilà. Sinon, il faut les palmes et le tuba.
Il paraît qu'il y a plusieurs types de visites, c'est-à-dire ?
Alors, on propose effectivement des visites de la Galerie des Robinets, mais ce n'est pas la seule visite qu'on propose, puisqu'il y a tout un espace découverte dédié au Canal du Midi où on explique toute la construction, en quoi le Canal du Midi est une œuvre extraordinaire et qui méritait largement d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on propose effectivement des visites du site. Alors, tout le mois de juillet et août, on propose des visites en partenariat avec l'Office de tourisme aux sources du Canal du Midi, qui s'appelle les Petits Secrets de Saint-Féréol, pour justement découvrir les anecdotes et tous ces aspects incroyables de Saint-Féréol qu'on ne soupçonne pas forcément.
Combien de temps ça dure une visite ?
Alors, il faut compter, pour la Galerie des Robinets, il faut compter 40 minutes. Pour la visite sur le site de Saint-Féréol, il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie.
D'accord. Quand on disait tout à l'heure, on descend à je ne sais plus combien de mètres de profondeur, on descend à pied, il y a un ascenseur, je ne sais pas.
Alors, on descend à pied. En fait, la galerie fait 70 mètres de long, mais le barrage, lui, ne fait, entre guillemets, que 33 mètres de haut. Donc, la galerie, en fait, on descend à peu près à une quinzaine de mètres. L'entrée se trouve à voilà, une quinzaine de mètres en dessous du sommet. Et après, on descend quasiment jusqu'au fond du barrage.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci pour cette visite rapide. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, Florence. À bientôt.
Alors, merci, vous aussi.
Au revoir. Pour en savoir plus, monsieur Clément Théruys, on va où ?
Alors, on va au lac de Saint-Féréol, près de Revel, en Haute-Garonne, près de Toulouse, à 1 heure de route. Mm-hmm. C'est pas loin pendant les vacances, c'est parfait. Et c'est ouvert de 10h à 18h30 tous les jours.
Oui.
Et c'est visite guidée uniquement. 5 euros pour un adulte, pour la visite du musée et de la galerie.
Oui, c'est par petit groupe, hein, si j'ai bien suivi. Voilà.
Et si les visiteurs souhaitent faire les deux, le musée et la galerie, c'est 7 euros par personne.
Alors, c'est un immense lac. Hein. Il faut bien savoir qu'il y a pas mal d'activités tout autour de ça. Vous pouvez passer la journée.
On peut passer la journée complètement. On peut aller se baigner. On peut faire plein d'activités nautiques, notamment, autour du lac de Saint-Féréol le lac de Saint-Féréol.
Et y manger sûrement, dormir peut-être.
Ah oui. Alors, on peut manger. J'ai noté le restaurant Le 20 au 20. C'est avenue Pierre-Paul Riquet, bien entendu. Hommage, c'est à Saint-Féréol. Mm-hmm. C'est un peu en hauteur, au bord du lac, avec une véranda. Cuisine locale, fraîche, joliment présentée. Comptez entre 20 et 35 euros, la formule.
Très abordable.
Ça reste correct.
Si vous êtes des Parisiens, ça vous changera. Dans un instant. Alors, le troisième site de ce samedi en France, sur Europe 1, désormais à 11h pendant l'été. Direction le pays des châtaignes, des cochons sauvages, quoi encore, des maisons en pierre, des plages de rêve, de l'eau turquoise et des polyphonies.
Ah.
Oui, alors tout ça, ça fait un peu cliché, vous avez raison, mais vous avez quand même reconnu la Corse. Alors, j'y ajoute, en plus, dans la liste, le pays des huiles essentielles. Et ça, on le savait peut-être pas. Nous allons à la rencontre de deux frères qui fabriquent justement des huiles essentielles parmi les meilleures du pays désormais. Alors, pourquoi là ? Lesquels ? Ils vous le diront et comment ? Ils vous le diront eux-mêmes. Tout de suite après, comme chaque samedi, les confidences d'une personnalité qui est très attachée à une ville ou à un lieu et qui a compté dans son enfance. Aujourd'hui, c'est Olivia Ruiz qui est auteure et aussi chanteuse et qui va vous emmener à Marseillette, c'est comme ça qu'on dit, dans l'Aude. On se retrouve après ceci.
11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lémergie.
Alors, en attendant la quatrième dimension qui ne saurait tarder, non, ça nous permettrait de respirer, vous imaginez ça, de respirer des senteurs.
Pendant à la radio
vous, oui, pendant que vous écoutez la radio, ça se diffuse.
Ça va, William
comme, non, mais comme dans les cinémas, parfois, à une époque, on envoyait l'odeur qui correspondait à l'image. Eh bien, on va vous transporter dans un site de la catégorie savoir-faire. Il se trouve, ce site, dans une île dont on sait à peu près tout. C'est la Corse. Mais saviez-vous aussi qu'on y fabrique des huiles essentielles ? Alors, du coup, direction la vallée du Prunelli, dans l'arrière pays d'Ajaccio, à la rencontre de deux passionnés, c'est Paul et Jean-Pierre Co, qui ont fait le pari à la fin des années 90 de se lancer dans le secteur des plantes médicinales. Alors, ils se sont installés, pourquoi pas, dans leur village natal, au Cana, et depuis, les voilà parmi les meilleurs producteurs des essentiels de Corse et peut-être aussi du continent. Alors, Gavin Clément-Théruys, le guide du routard de Corse à la main. D'ailleurs, celui-là, c'est l'un des plus vendus de la gamme. Et il va vous dire où nous sommes.
Carrément, oui. C'est le Routard Corse, c'est un des plus vendus de la collection. Vous avez bien raison.
Et ce qu'il faut dire peut-être aussi à propos, c'est qu'il est alimenté chaque année quand il y a des choses nouvelles.
Tous les ans, on remet à jour les informations.
C'est ça,
tous les ans, on va sur place et tous les ans, le Routard, on l'écrit avec nos pieds, comme on a l'habitude de le dire.
Oui, c'est ça.
Et c'est vraiment ça. Et on part et on remet à jour. Et on découvre des trésors chaque année. Et on a découvert, en travaillant justement sur la Corse, cette maison des senteurs, la maison des senteurs des frères Co, située en balcon sur l'une des collines qui accompagne le Prunelli, comme vous l'avez joliment dit, William. C'est un fleuve de Corse du Sud qui se jette dans la Méditerranée. On n'est pas loin d'Ajaccio, qui est à 25 km environ.
Oui, mais alors, ils ne sont pas venus là uniquement, les deux frères, parce que c'est leur région natale. C'est une excellente idée, ils ont de bonnes raisons. Mais il y a aussi, c'est pas un hasard, une flore extrêmement riche là dans le coin qui explique le choix.
Exactement, le romarin, l'eucalyptus, les myrrhes, il y en a souvent en Corse, mais là vous faites, il y en a vraiment une forte concentration là précisément, et c'est ce qui nous intéresse comme à chaque fois dans Samedi en France, c'est qu'on peut y faire la fabrication, y voir même la fabrication d'un produit avant de le faire. Vous allez, vous êtes devant vous, vous avez toutes ces herbes, toutes ces plantes, et vous allez pouvoir suivre toutes les étapes de la cueillette à la distillation avec les conseils nécessaires pour savoir quelle est l'huile essentielle qui peut vous convenir selon vos petits problèmes, vos soucis ou vos envies tout simplement.
Alors si vous voulez en savoir plus, ça tombe bien parce que nous sommes en ligne avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors dites-nous, dans quelles circonstances vous vous êtes dit un beau matin, tiens, si on faisait des huiles essentielles, qu'est-ce que t'en penses, Paul ?
C'était pas un matin, c'était un soir à l'apéritif.
Ah ouais, tiens, figurez-vous. Comme par hasard, à l'apéro.
Mais c'est là qu'on fait les plus belles rencontres.
Mais
en fait,
oui.
Un ami qui rentrait des États-Unis pour rester en Corse définitivement, avec son diplôme de chiropracteur.
Oui.
Et il nous a parlé longuement des huiles essentielles et surtout de l'aromathérapie. Et on a de suite flashé là-dessus, hein, à l'idée de pouvoir cueillir, d'être au contact de ces plantes et surtout de les transformer en sachant qu'on devait créer pratiquement et proposer des produits formidables.
Oui, il y avait tout à faire. Mais est-ce que vous étiez déjà, vous et votre frère, dans ce secteur d'activité ou pas du tout ?
Mon frère était dans les plantes, moi j'étais dans le théâtre. Oui, j'étais acteur et prof de théâtre.
Oh.
Oui, oui, en Corse, eh oui.
Alors, un mot quand même pour évoquer ce que c'est qu'une huile essentielle et à quoi ça peut être utile.
Donc, une huile essentielle, pour aller vite, hein, c'est le résultat d'une extraction de plantes aromatiques par le biais de la distillation, par l'entraînement de la vapeur.
D'accord. Mais alors, ça peut servir à quoi ? Parce que vous parlez de chiropracteur, c'est-à-dire qu'on fait un massage, on utilise par exemple parfois certaines huiles essentielles, ou c'est
tout
bon
à fait,
pour,
oui,
au fond,
oui.
C'est bon pour quoi ?
Eh bien, j'allais presque dire que c'est bon un peu pour tout. C'est vrai, les massages, il y a des huiles qui sont relaxantes, ou d'autres qui sont anti-inflammatoires, il y a des huiles qui sont utilisées au niveau de la sphère ORL, pour les pompes circulatoires, les petits bobos de tous les jours. Mmh.
Vous faites aussi dans la cosmétique ?
Un petit peu, on fait des gels douche, les huiles de massage sont considérées comme cosmétiques, on fait aussi des parfums.
Alors, votre entreprise, moi ça m'a frappé, ça s'appelle Corsica PAM, P-A-M.
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire PAM ?
Alors PAM, ça veut dire plante aromatique médicinale.
Vous travaillez donc au pays. Alors surtout, mais il y a la matière première, si j'ose dire, qui est sur place. Évidemment, ça tombait bien.
Évidemment, oui. Dans ce type de métier, on ne peut pas importer de la matière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur des circuits courts, en fait. On est directement au contact de ce que l'on va transformer.
Alors, il a quand même fallu installer les ateliers de fabrication. Il y avait tout à faire, là.
On est parti de zéro. On est parti d'une colline dans laquelle on a monté une piste, on a fait une plateforme, on a installé un bâtiment.
Ah oui.
Et puis, on a installé nos cuves, nos alambics, etc. etc.
Alors, la maison des senteurs, puisque ça s'appelle comme ça, eh ben, elle est située en hauteur, on l'a dit tout à l'heure avec Gavin, la vue est somptueuse, hein, c'est pas la peine de...
Et là, au moment où je vous parle, je suis dehors, donc je vois au plus loin de mon horizon une belle chaîne de montagnes qui se situe à peu près à 1500-1600 mètres d'altitude.
Quand on veut acheter vos produits, il faut aller là-haut ?
Alors, soit on vient chez nous, évidemment, et ça nous fait plaisir parce qu'on est quand même des gens de contact. Et...
Oui, donc les visiteurs, c'est ça le but du jeu, c'est d'inviter les auditeurs d'Europe 1 à aller dans cet endroit magnifique tel que vous venez de le décrire. Et on participe à votre travail. Vous-même, vous participez à la cueillette ?
Non, je ne participe plus à la cueillette. On a une équipe de cueilleurs aujourd'hui. Ça fait quand même 27 ans qu'on est en place. Donc aujourd'hui, on est quatre mousquetaires dans l'équipe. Donc c'est vrai que c'est une belle aventure.
Alors autour de vous, vous l'avez dit, il y a toutes les plantes nécessaires pour les huiles essentielles. Mais est-ce qu'il y en a qui sont spécifiques à la Corse ?
Oui, le panariche, par exemple, est une plante endémique à la Corse. La plante, le myrte, par exemple, en Corse, on le retrouve, le même myrte, dans le Maghreb. Sauf que l'huile essentielle de Corse s'appelle myrte vert. Les chercheurs l'ont appelée comme ça parce qu'elle a une constitution particulière. Alors que dans le Maghreb, l'autre composition s'appelle myrte rouge. Donc, il y a la plante, mais il y a aussi la composition moléculaire qui est très, très importante, évidemment, qui est majeure.
Alors, quand on visite l'atelier, je ne sais pas combien vous pouvez accueillir de visiteurs à chaque fois. Combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, nous, on reçoit des groupes aussi, des particuliers, évidemment. Hein. Oui. Alors là, il y en a qui sont dans ma boutique qui m'attendent. Et on reçoit jusqu'à 50 personnes.
Ah.
On est structuré pour ça. Et nous voir travailler, hein. Ça fait plaisir des fois de voir les gens travailler,
remplir nos cuves.
Des fois, des personnes nous donnent un coup de main d'ailleurs.
Très bien. Vous distillez aussi vos conseils. Par exemple, à mon voisin de table, là, ici, dans notre studio, qui est souvent débordé de travail, ce pauvre garçon. Alors, vous lui conseillez quoi pour se détendre un peu, le petit Gavin ?
Je vous écoute, Jean-Pierre.
Alors, nous, on a une huile essentielle qui est remarquable pour ça, qui s'appelle le petit grain de clémentine.
Ah bah tiens.
Qui, elle, va agir sur tout ce qui est émotionnel, la détente, la relaxation, le stress.
Ah, parfait.
Bon. Ah bah, je me sens déjà mieux.
Et les huiles, ce sont dans des petites bouteilles, c'est toujours comme ça.
C'est des petits flacons, oui. Des petits flacons, en général, les huiles essentielles, c'est 5 ml, 10 ml.
Voilà, et il ne faut pas en abuser. Et ça se consomme pur ou il faut mélanger parfois ?
En général, il faut mélanger pour une application.
Bon, alors en tout cas, bravo Jean-Pierre, merci pour la visite. Vous saluerez Paul et vos enfants respectifs. Je vous souhaite buona fortuna et arrivederci.
Allez, arrivederci. Buona giornata a tutti.
C'était donc la maison Corsica Pam. C'est à 30 km d'Ajaccio. Et vous ne regretterez pas la visite. Alors, comment fait-on pour y aller ? À part ça, on va à Ajaccio, quoi.
Bah ouais. Et la distillerie, elle est ouverte au public de janvier à novembre. Donc, ça va, ça laisse une large gamme horaire. Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Possibilité le samedi sur rendez-vous. Et on met toutes les informations sur Europe 1.
Alors, vous y allez parce que vous avez atterri à Ajaccio, si j'ose dire. Une adresse dans le coin, il y a de quoi faire.
Hein. Oui, les Pica. Ah, les Pica, au col de Mercugio. C'est vraiment plaisant. On monte au lac de Tola et on a les gorges de Prunelli à côté. Là encore, deux amis qui ont fait le pari de travailler à l'année et d'offrir une cuisine de qualité qui est appréciée aussi bien par les locaux que par les visiteurs. Vous êtes en surplomb de la route, vous avez la vue magnifique jusqu'à la mer. Bref, une jolie carte très courte avec pas mal de viande.
Si vous voulez en savoir un petit peu plus, et ce qui est normal, on met toutes les informations de Gavin sur europe1.fr.
Exactement.
À présent, voici au micro de Daniel Moreau les confidences d'une personnalité que vous connaissez sûrement. C'est une auteure qui s'est fait connaître d'abord par ses qualités de chanteuse, c'est Olivia Ruiz. Elle a grandi à Marseillette, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est près de Carcassonne. Alors, c'est une grande amoureuse de sa région, et elle va la vanter elle-même. Elle a bien voulu donc jouer les guides pour Samedi en France au micro de Daniel Moreau.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour.
Alors vous êtes née à Carcassonne et vous avez passé vos premières années à Marseillette, café du village. Ça doit être un peu le poumon d'un village, un café. Donc comment c'était le Marseillette de votre enfance ?
Je vous confirme que dans un village de 700 habitants, c'était vraiment le centre névralgique. C'est là où tout se passait, où tout se racontait, où finalement la vraie vie du village s'opérait. On peut remonter ensuite dans le cœur du village et on se retrouve face à ce café qui aujourd'hui est tenu par deux Anglais d'origine irlandaise, deux jeunes qui ont redonné une âme à ce lieu finalement.
Alors justement, si on est dans la région de Marseillette, il y a Carcassonne à côté, il y a ce fameux canal du Midi. Donc si on a deux jours comme ça, qu'est-ce qu'il faut absolument aller visiter, aller voir ?
Alors très franchement, 48 heures, c'est vraiment court parce que c'est vrai que cette région offre des merveilles en tout genre. La route des vins, des châteaux cathares, qui est magnifique. On traverse les Corbières et le Minervois, qui sont des régions à la fois collées, en même temps très différentes esthétiquement. On peut bien évidemment aller visiter la cité médiévale de Carcassonne, ça semble indispensable. Marseillette est un très joli village avec une magnifique petite église, une tour du télégraphe classée, avec un petit fort minuscule. Mais il faut se perdre dans Marseillette parce qu'il y a plein de jolis petits coins cachés, notamment autour du canal. Il y a le village du livre, Montolieu. Un village de 1500 âmes qui pourtant se retrouve avec 17 bibliothèques, me semble-t-il.
Incroyable.
Voilà, avec, voilà, on appelle ça le village du papier, notamment parce que du papier s'y trouve fabriqué.
Eh bien voilà, transition incroyable, parce qu'évidemment, vos livres vont être dans cette bibliothèque, parce que je m'adresse à Olivia
Ruiz,
qui est en train de devenir un vrai écrivain, parce que tout le monde s'accorde sur une chose, c'est que vous avez un vrai style, vous l'avez trouvé tout de suite. Votre enfance, votre famille, la transmission, ce sont vos sources d'inspiration. Donc le deuxième roman s'appelle « Écoute la pluie tomber », ça sort chez Lattès. Qui est Carmen? Parce que c'est un peu le personnage central de votre livre. Donc,
c'est
qu'est-ce
ça.
Que vous pouvez nous dire sur elle?
Alors Carmen, c'est une jeune femme qu'on va rencontrer au moment d'une tragédie immense dans sa vie, qui est la perte de sa nièce, qui est un peu comme une fille pour elle, et qui va revenir en arrière sur les 20 années qui viennent de s'écouler.
Alors, si vous avez quelques jours, comme ça, vous vous promenez dans Marseillette et ensuite, vous vous reposez à l'ombre d'un, je ne sais pas s'il y a des platanes, enfin d'un
Absolument.
Arbre, et vous lisez « Écoute la pluie tomber », paru chez Jean-Claude Lattès. C'est un vrai, vrai beau roman. Merci, Olivia Ruiz.
Merci, Olivia. Merci, Daniel Moreau. Pour finir ce samedi en France sur Europe 1, à 11h pendant l'été, je vous le rappelle, voici maintenant un site de plein air. Et le mot convient plus que jamais, car vous serez dans les airs. On vous propose un baptême en ULM. Alors d'abord, c'est très facile à faire, vous allez voir. Ensuite, vous respirez bien là-haut. Et puis, c'est beau. Et puis, c'est inédit, quoi, parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais fait ça. Et en plus, alors là, c'est le petit bonus. Non, c'est immense. Parce que vous serez au-dessus du Mont Saint-Michel. C'est pas banal, ça. À tout de suite.
11h midi sur Europe 1. Samedi en France. William Lémergie.
Alors, voici pour terminer ce samedi en France, une balade en l'air. Et donc en plein air, on n'avait jamais été aussi haut dans cette émission depuis le début de la saison. Nous sommes à bord d'un ULM, vous serez à bord d'un ULM. Vous savez, c'est cet engin volant original avec une grande aile, un moteur qui a un bruit très particulier. Il y a des hélices et juste devant un baquet avec deux sièges. Il y a tout ce qu'il faut pour une belle balade. Vous allez me dire oui, mais c'est un baptême de l'air quoi. Ah bah, si vous me dites ça... Je me dis, il faut en faire un petit peu plus pour les épater. Eh bien, ben justement, ça tombe bien. La balade ne se fait pas n'importe où, elle ne se fait pas au milieu d'un champ de patates. Elle se fait juste au-dessus de l'une des merveilles que le monde entier nous envie. J'ai nommé le Mont Saint-Michel. Et c'est l'un de nos éminents collègues que le sort a désigné d'office pour prendre part à cette expérience. Et il est monté à bord de l'engin. À vous de jouer, Monsieur Gavins. Clémenté Ruiz du Guide du Routard. Alors, vous avez décollé d'où exactement? Car c'est bel et bien vous qui avez été désigné.
Ouais, le sort a été généreux avec moi. C'est tombé sur moi. J'ai fait ce baptême du LM, comme vous le dites, William, avec une petite appréhension au départ.
Oui,
mais...
Mais c'était parce que nous, on ne voulait pas y aller. Et c'est lui qui a été désigné. Oh, comme c'est pas de peau, il faut que tu y ailles, mon gars. Mais j'ai le vertige. Tant pis pour toi.
Vous avez eu tort, William, parce que franchement, c'est une expérience absolument géniale. Ah ouais. Vraiment. Et ça tient pas mal à déjà au cadre. C'est la beauté du paysage, on vous l'avait dit, on va survoler le Mont-Saint-Michel. Et puis ça tient aussi à Didier Hulin, mon pilote du jour. Alors je l'ai retrouvé à Dragé, c'est à côté du camping des Cogniers, c'est à 15 km au sud de Granville.
C'est là qu'on décolle.
Exactement.
D'accord.
Et j'ai là retrouvé Didier Hulin, donc, qui m'a mis son casque sur la tête, bien connecté à un micro pour qu'il puisse me parler et que l'on commente tout ce que l'on voit pendant le vol. Parfois même on se tait tellement c'est beau. Vous allez voir. Et il est passionnant, Didier.
Ok. Mais quand on décolle, là, vous m'avez dit à Dragé. Là, on est loin du Mont Saint-Michel.
Non, mais en 5 minutes, vous y êtes.
Ah oui, c'est ça. Donc, on approche et puis on le voit de loin. Et puis tout d'un coup,
on le voit tout de suite même.
Ah ouais.
Et ce qui est génial, c'est que...
Ça bouge un peu ou pas?
Le jour où j'ai commencé et où j'ai fait l'expérience, Didier m'a dit attention, ça va être un peu viril. Mais en fait, franchement, j'ai rien ressenti. C'était hyper zen. Je me suis laissé emporter et Didier m'a vraiment bien guidé. Et puis le truc ultime, c'est que vous faites le tour du Mont Saint-Michel.
Oui, mais avant ça, d'abord, vous sortez de la terre. Après quoi, il y a
vous êtes dans les airs et vous avez sous vous oui. Vraiment, vous avez l'eau, vous avez les marées, oui. Vous avez l'eau qui coule. Vous avez ce mélange entre la terre et l'eau qui est vraiment sublime. Et là, tout d'un coup, vous vous dites que vous êtes tout petit, que la terre est belle, qu'il faut en profiter.
Et le Mont Saint-Michel, vu d'en haut, c'est un magnifique gâteau, là.
Mais c'est ça.
Sculpté.
Et surtout, vous, ce que vous ne faites jamais, c'est que vous faites le tour. D'habitude, on le voit à pleine face. Mais aller derrière le Mont Saint-Michel, c'est magique. Et puis, il y a le petit rocher de Tomblaine qu'on ne voit jamais, qui est caché derrière le Mont Saint-Michel.
Ah bon, il y a un rocher, là.
Et ouais, il y a un rocher qu'on voit qu'à marée basse. Là, j'étais à marée basse, donc c'était vraiment très très beau et l'expérience est unique à faire, je vous conseille vraiment de le faire.
Bon, alors nous sommes au téléphone avec votre pilote là, Didier Hulin, bonjour Didier.
Oui, bonjour William.
Alors le petit Gavin, s'il s'est bien tenu, il a pas trop remué?
Non, il s'est bien tenu, il était un petit peu shooté après le vol, mais c'était un bon shoot.
Allez, on va en reparler de ça. Alors il faut que je décrive quand même l'engin. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est comme un grand scooter, on est bien assis.
Une tondeuse à gazon, moi, je dirais.
C'est mieux que ça.
Ça a un petit peu évolué depuis, parce que l'ULM existe depuis les années 80.
Oui.
Et effectivement, là, il s'agissait d'un pendulaire, donc d'une aile delta motorisée.
Mm-hmm.
Et effectivement, moi, je vole depuis plus de 30 ans, et donc j'ai connu l'époque des 50 chevaux.
Ah ben, Didier, vous êtes un pionnier.
Alors, un des pionniers, on est quelques-uns en France, il y a 30 ans, à découvrir l'ULM. Et voilà.
Alors, il n'y a pas d'aptitude particulière pour s'installer derrière vous. Il n'y a pas des accélérations dignes de rafale, quoi. Ça, c'est...
Ah non, quelque chose de beaucoup plus soft. Et d'ailleurs, les enfants, j'emmène des enfants à partir de 5-6 ans.
Ah oui?
Et jusqu'à l'autre bout de la vie, des centenaires, voilà.
Combien de temps ça dure, le vol?
Il y a des vols de découverte de 10 minutes, mais le principal vol, c'est le vol de 20 minutes qui fait le tour complet du Mont-Saint-Michel. Donc soit on le fait à basse hauteur, environ à 150 mètres, mais on peut passer au-dessus parce que le Mont-Saint-Michel est avec une zone de protection qu'il faut respecter.
Ah oui, c'est ça, on n'a pas le droit de le survoler au-delà de cette zone. Oui, d'accord.
Voilà, au-delà de cette zone, sauf dérogation quand on fait des images télé ou autres.
Mm-hmm.
Mais le Mont-Saint-Michel, et comme j'ai entendu Kevin le dire, effectivement, on l'aborde depuis l'arrière et dans toute sa périphérie, ce qui est vraiment très beau.
Et Gavin, vous étiez à combien, vous, la visite à 150 mètres?
Demandez à Didier parce que je sais pas, je planais tellement que je ne sais même pas à quelle distance on était, Didier.
Ça faisait quoi? Les symptômes de Gavin ont duré un petit peu. Là,
c'était 150 ou 200 mètres?
Non, on était plus haut, on était aux environs 900 mètres de haut.
Ah ouais? Ah oui, d'accord.
Et voilà.
Très bien.
Et on l'a fait dans le sens anti-horaire du Mont-Saint-Michel, ce qui a permis effectivement de l'aborder depuis Dragé. Mais...
Est-ce qu'on prend tout maintenant?
Mais c'est étonnant, Didier, parce que Gavin, au moment où il a fait ce vol, il n'a pas fait la différence entre 100 mètres et 900 mètres. C'est vous dire s'il était dans un état second. Hein.
J'ai perdu tous mes repères.
Il était dans un état second, mais c'est vrai que c'est ce type d'expérience où les gens sont... Souvent, les gens me disent, je ne trouve pas les mots. J'ai les mots pauvres par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vis.
Ah ben, il paraît qu'il y a une cliente qui a trouvé le mot. Hein. Elle vous appelle l'aérothérapeute.
Oui. Ben, je ne sais pas si c'est lié à mon ancien métier d'infirmier. Mmh. En tous les cas, ouais, on a l'impression qu'on donne du bonheur aux gens. Et ça, c'est bien essentiel.
Oui.
Effectivement, les gens reçoivent comme des cadeaux, et c'est du cadeau vécu. Donc,
parce que là, moi, j'ai une photo de vous là dans votre engin. Mais on est en l'air, mais l'air, il est autour de nous. On n'est pas dans une cabine.
Alors, on ressent même parfois les senteurs de la nature. On est en prise directe et on est en symbiose avec la nature. C'est ce côté qui est dans l'ULM, qui est ce côté plein air. Et qui est indescriptible. Je pense qu'il faut le vivre.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Quoi.
Alors, quand il est revenu à terre, je ne sais pas s'il a eu le temps de vous le dire au téléphone, quand il vous a rappelé, mais il avait l'impression de flotter.
Ah, je ne suis pas étonné. Hein. Les gens mettent quelques minutes à s'en remettre et encore une fois, ils viennent de vivre quelque chose de particulier d'un point de vue proprioceptif, d'un point de vue sensitif.
Bah, voilà. C'est bien.
Je crois que je flotte encore un peu. Hein.
Vous proposez d'autres vols en ULM, Didier, dans la région ?
Alors oui, à partir de Dragé ou à partir de l'aérodrome d'Avranches, évidemment c'est le tour du Mont-Saint-Michel, mais j'ai aussi des vols un peu plus longs qui vont soit vers Granville, soit vers Cancale. Voilà, donc,
pour vous joindre, on met toutes les informations sur notre site europe1.fr de façon à ce que vous puissiez vous rencontrer. Merci beaucoup, hein, Didier. Je vous remercie et Gavin vous remercie également.
Merci, Didier.
Bonne journée, William. Bonne journée, Gavin.
Au revoir.
Alors, mon petit Gavin, comment on fait pour réserver et puis on va... Alors, Dragé, c'est où ?
Alors, Dragé, c'est à une quinzaine de kilomètres au sud de Granville. Comptez 60 euros pour 10 minutes de baptême.
Ça, c'est pas ça tous les jours.
Exactement, c'est un moment assez unique. Sinon, pour le grand tour, c'est autour de 100 euros pour contourner le Mont-Saint-Michel et vous avez des beaux souvenirs à la fin.
Une fois qu'on a atterri, on peut dormir dans le coin parce qu'il y a d'autres choses à faire.
Quand on atterrit à Dragé, on va aller juste à côté, au domaine de Belleville. C'est chez Florence et Olivier Bram à Dragé-Ronton, hein, vraiment. C'est une belle maison de maître du XVIIe siècle avec des élevages de chevaux tout autour. C'est notamment l'occupation du maître des lieux. Il y a des chambres d'eau très spacieuses avec juste ce qu'il faut d'élégance et de distinction. C'est vraiment très beau pour un beau week-end à partir de 135 euros la nuit. Donc profitez-en si vous avez envie. Et il y a des réductions avec votre guide du routard de l'année si vous le souhaitez.
Ah bon ?
Oui, toujours.
Ah, c'est
toujours.
Bien ça.
On met l'info sur europe1.fr.
D'accord. Autre chose maintenant, c'est vous n'étiez pas là en début d'émission. Ouais. Alors, nous sommes allés où ?
Alors, on est allé au château de Vaux, en Champagne. C'était en l'aube. On a cherché qui était le meurtrier avec l'aide du célèbre Vidocq.
Il faut se dire que c'est une proposition dans ce château pour permettre de le visiter. Donc,
c'est une
enquête.
C'est une visite originale.
Oui, c'est original. Ensuite.
En Haute-Garonne, près de Revel, au lac de Saint-Ferréol, on a découvert la galerie des robinets du canal du Midi.
On descend à 15 mètres de profondeur.
500 kilos le robinet. Ensuite, on a appris les étapes de la fabrication des huiles essentielles en Corse du Sud, près d'Ajaccio. Je sais que je vais acheter du petit grain de clémentine pour me détendre.
Oui, et vous voyez la fabrication.
Exactement. Sur place.
Du produit sur place, comment on passe de la cueillette, la distillation, tout
ça. Et on vous conseille. Et ensuite, on a terminé par un baptême en ULM au-dessus du Mont-Saint-Michel à Dragé dans la Manche. Et je plane encore.
Bon, alors maintenant, dans l'actualité culturelle cette semaine en France, Gavin, qu'est-ce qui a retenu notre attention ?
Eh bien, c'est une série de concerts, William. C'est dans le Gard. Ça s'appelle les Mardi Live, qui font jouer aussi bien des artistes de musique classique, gypsy, reggae, pop, rock, jazz. Bref, il y en a pour tous les goûts. Vous allez me dire peut-être que c'est pas très, très original. Mais vous avez tort parce que vous avez aussi ces concerts se déroulent non pas en plein air mais dans une grotte. Je m'explique, les concerts de musique live du mardi se tiennent dans la grotte de la Salamandre où on peut voler avec un aéroplume en temps normal.
Ah, mais on l'a déjà vu ça dans une émission.
Exactement, là on va pouvoir assister à un concert. La première partie, 30 minutes, se déroule sous terre dans la grotte, rien que pour l'acoustique.
oui,
ça vaut
ça,
vraiment
rigolo.
Le détour. Et ensuite on a un petit pique-nique, on achète des produits de terroir sur place si on le souhaite et on remonte et on a la suite du concert sur la terrasse de la grotte. C'est tous les mardis jusqu'au 30 août. 18 euros pour le concert en entier, 10 euros pour le concert uniquement en terrasse et 11,50 pour le buffet. Bref, toutes les infos sont sur europe1.fr.
L'émission est maintenant terminée. Alors, merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau et Gavin Clément-Terruiz. Nous vous laissons en compagnie maintenant de Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls pour le marché de midi. Quant à nous, on se donne rendez-vous samedi prochain. Je compte sur vous. C'est à 11h sur Europe 1 pour découvrir ensemble. Alors, 4 nouveaux lieux dans 4 régions de France, bien sûr. Passez un bon week-end et de bonnes vacances si c'est le cas. Et à samedi prochain.